je vais vous dire cet après-midi comment je comprends les, comme je disais, les grands moments de l'existence, c'est-à-dire quelle intelligence je peux avoir de ce que Jésus a vécu pendant les quelques années de sa vie publique, et peut-être même un peu de sa jeunesse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais encore vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire ce matin. Je vous ai indiqué ce matin que dans nos quatre évangiles, il y avait une coupure très nette. Avant la multiplication des pains et la barque plus ou moins en prise avec la tempête, et après. Bon. Et après, et entre dans ces deux, alors, dans nos évangiles, il y a le commencement, qui est surtout généalogique chez Luc et chez Matthieu. Et puis à la fin, vous avez tout ce morceau qui consiste à dire ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Ceci est vrai pour Luc et pour Matthieu. Pour Marc, qui n'a pas du tout les mêmes projets que Luc et que Matthieu, il n'y a pas de prologue, il n'y a pas d'évangile de l'enfance, et il y a très 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 peu de choses, à tel point qu'on se demande si, par hasard, la fin de l'évangile de Marc n'a pas été perdue. Mais semble-t-il, ça se termine d'une façon aussi, une façon, je dirais, très énigmatique, mais très pathétique. Ce qui, à mon point de vue, est peut-être plus important que des dissertations sur ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Et puis, alors, dans les deux morceaux, alors une compilation d'événements, de paraboles, de récits, une compilation. Une compilation où l'on a l'impression, au moins dans les premiers évangiles, Luc et Matthieu surtout, un peu Marc aussi, c'est que on y met tout ce qui s'est passé en Galilée, et puis dans la deuxième partie, tout ce qui se passe en marche vers Jérusalem. Donc c'était un rassemblement, je dirais, presque méthodique, pas historique, méthodique. Tout ce qui s'est passé dans la grande mission de Galilée, et puis tout ce qui a été ensuite s'est développé dans les perspectives de la mort qui approche. Et dans ces deux morceaux, alors, d'abord, on met en évidence certains miracles par rapport à beaucoup d'autres, nous dit-on. Mais tous ces miracles ont bien l'impression que c'est essentiellement des œuvres de catéchèse. On guérit le sourd, on guérit le muet, on guérit le paralytique, et tous ces récits de miracles tournent autour de la parabole. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on les utilise dans la méditation personnelle. Ils sont tous organisés pour dire, l'avènement de la foi suppose qu'on soit moins sourd, qu'on ait quelques regards, qu'on ne soit pas paralysé, qu'on ne soit pas lépreux. Donc, les miracles, les guérisons dont on nous parle tout particulièrement, sont plus orientés vers la catéchèse que vers ce qui s'est véritablement passé. Bon. Et puis, puisqu'on a tout compilé de ce qui était avant en Galilée, pendant la campagne de Galilée, et à Jérusalem après, tout surtout ce qui est passé à Jérusalem après, alors, il va y avoir peut-être des événements qui se sont passés à Jérusalem pendant la première période, qui se trouve transposé dans la deuxième, puisqu'on rassemble pratiquement tout ce qui s'est autour de Jérusalem dans la deuxième partie. Il y a peut-être eu des événements qui se sont passés à Jérusalem dans la première partie et qui se trouvent reportés dans la seconde. Et ça, on peut très facilement s'en apercevoir. On peut s'en apercevoir parce qu'il y a tout de même des contradictions et qui sont jamais levées. Ça a déjà été compris, mais enfin, à mon point de vue, je n'ai encore jamais vu ces choses. Ainsi, par exemple, on nous dit, dans la deuxième partie, Jésus, après des hésitations, se dit, il faut que je monte à Jérusalem. Il hésite. Ses frères, d'ailleurs, lui disent, écoute, si tu es vraiment le prophète, va à Jérusalem. Mon temps n'est pas le vôtre. Je n'y vais pas. Quelques jours après, il se met à y aller, en secret. Et puis on a l'impression que c'est en effet en secret. Ses disciples, on nous montre que Jésus marche en premier, ses disciples, tout craintifs, peureux derrière se sentant menacés eux-mêmes dans leur propre existence de par la situation concrète dans laquelle se trouvait leur maître. Donc ils montent en secret. Bon. Alors, retenons cette chose-là, dans la deuxième partie, il y a une montée finale, en secret. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ils montent en secret, ils entrent triomphalement à Jérusalem, hein, ils commencent à chahuter les temples, on bouleverse ces pauvres vendeurs qui faisaient que leur métier. Enfin, on prend des attitudes qui n'ont rien à voir avec le secret dans lequel on nous dit qu'il est monté. Puis c'est encore pire. On va jusqu'à être obligé de payer 30 deniers, voilà, c'est la même chose. 30 dollars pour arrêter un type que l'on voyait partout. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, explication légale. Mais cette montée à Jérusalem, elle ne s'est pas faite à la fin. Elle s'est faite pendant la période triomphante, au moment où tout. Alors vraiment, les disciples, c'était la grande histoire. Ils entraient à Jérusalem avec tous ces disciples, c'était la grande chose. Et puis, cette émeute, plus ou moins, au temple, mais ce sont les disciples de Jésus qui, fatalement étant plus intégristes que leur maître, vont se mettre à bousculer ce qui est autour du temple. Elle dit d'ailleurs peut-être à un certain nombre de juifs qui eux-mêmes étaient assez opposés au sacrifice dans le temple. Donc, ce sont des histoires qui sont arrivées pendant la première période et que nous mettons dans la seconde. Et encore autre chose qui est tout de même un peu baroque, c'est au moment même où tout semble catastrophique que les fils de Zébédée se préoccupent de savoir s'ils vont avoir la première place. Vous voyez, c'est pas concevable quand tout fout le camp. Donc, c'est probablement cette partie-là aussi a été reportée dans la deuxième partie, parce que c'était dans la première, tout le moment où tout était triomphal. Alors là, on pouvait s'intéresser aux premières places. On ne s'intéresse pas aux premières places quand tout fout le camp. Alors voyez-vous, voilà des contradictions qui sont dues à la conséquence de la manière dont c'est présenté. Tout se met à Jérusalem d'un côté, tout est dans Galilée de l'autre, ou presque. Alors, c'est à partir de réflexions de ce genre, si vous voulez, qui sont, comme j'oserais le dire, il faut lire l'Évangile avec la mentalité d'un policier. La mentalité d'un policier. Quelqu'un qui fait une enquête et qui se demande les différents témoignages qu'il entend, ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, il faut donc pas lire du tout comme un texte sacré. Je veux dire comme, je dirais, un roman policier.